Marcel Zanté, bonjour.
Bonjour, madame.
La résurgence des coups d'État dans la sous-région ouest-africaine et ses enjeux, quelles perspectives pour le peuple? C'est le thème choisi cette année par l'Unité d'action syndicale pour commémorer le 57e anniversaire du soulèvement populaire de 1966. Et on se demande, avec les deux coups d'État que le Burkina a connus, avec comme justificatif la situation sécuritaire, si les putschs ne remettent pas en question les acquis des travailleurs.
Dans un État démocratique, quoi qu'on dise, il y a un certain nombre de choses qui sont des acquis. Lorsque maintenant, ce sont des coups d'État qui surviennent, et bien l'ordre constitutionnel n'est plus encore le même. Donc ça veut dire forcément que ça va avoir des impacts sur ce qui a déjà été établi.
Un exemple de l'impact des coups d'État sur la situation des travailleurs?
Pour exemple, en janvier 2022, à la suite du coup d'État, tout ce qui avait été comme accord établi avec les travailleurs, il fallait d'abord que les nouvelles autorités s'installent, qu'ils essaient de voir cela, ces accords-là, qui soient en conformité avec leur politique et leur programme à eux, avant de vous donner suite. De sorte que beaucoup d'accords ont été mis dans les frigos, si vous permettez le terme, jusqu'à ce que se vienne encore le deuxième coup d'État. Donc, en termes, par exemple, d'acquis qu'on pensait en tout cas constant, c'est le relèvement du SMIC qui avait été plus ou moins acté par le régime du président Roch Marc Christian Kabore en son temps. Et nous avions en tout cas espéré qu'en janvier-février 2022, ça allait être effectif. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le SMIC est resté toujours dans son taux ancien, 30 684 francs CFA. Ça n'a pas évolué. Donc, ça, c'est un exemple qui est là, qui est constant. Il était aussi question de voir un peu pour le relèvement des salaires des travailleurs du privé. Il y a plein d'entreprises qui, depuis près de 10 ans maintenant, n'ont procédé à aucun réaménagement des salaires de leurs employés.
Une autre question qui mérite d'être posée, c'est celle relative à la situation des travailleurs des zones à fort défi sécuritaire. On parle des PDI très souvent, mais quelle est la situation des travailleurs des zones désertées? Que deviennent-ils?
Les travailleurs qui sont dans ces zones sont là pour qui? C'est pour ces populations-là, qui d'abord, il faut le rappeler, étaient la cible première des terroristes. Ils sont les premiers à vraiment chercher à sauver leur vie. Si je prends le cas des publics, ça va, ça peut se comprendre, parce que comme l'État reste toujours souverain, bon, leur salaire est maintenu, c'est sûr, mais ceux qui sont du privé, ils ont perdu leur emploi, c'est clair. Je prends l'exemple aujourd'hui de quelques mines, la mine de Bungu à Yuga, qui était obligé de fermer, qui a donc licencié ses employés. La mine de Taparco, c'est la même chose. Elle a fermé, elle a vidé ses employés, ainsi de suite. Tant qu'il n'y a pas la sécurité, tant qu'il n'y a pas la quiétude, il n'y a pas de travail. On ne peut pas travailler dans l'insécurité.
Alors, récemment, les syndicats ont opposé un refus catégorique quant à céder 1% des salaires des travailleurs pour soutenir l'effort de guerre. L'UAS a notamment posé des conditions claires. Il faut d'abord que l'armée redore son blason. À cet effet, le capitaine Traoré a, dans son message de nouvel an, indiqué que la justice et les contrôleurs ont reçu carte blanche pour commencer à mener la lutte contre la corruption. Il a également affirmé que cela peut se ressentir sur le terrain. Est-ce que vous avez l'impression que les lignes sont en train de bouger dans le sens souhaité?
Ce n'est pas un refus catégorique en tant que tel. Comme vous l'avez vous-même relevé, nous avons demandé à ce qu'on mette la clarté sur certaines affaires. La clarté sur la gestion de ces fonds déjà alloués. Parce que ces fonds alloués, il faut le rappeler, ce sont nos impôts, nous, pour gérer la crise sécuritaire, pour ramener la paix dans le pays. De ce que nous revient en tout cas comme information, les choses dans certaines localités en tout cas, sont en train d'avancer. Aujourd'hui, au moins, on peut dire que le capitaine, le chef de l'État, essaie de joindre l'acte à la parole. Et c'est ça que nous voulons. Si aujourd'hui, effectivement, l'autorité de contrôle de l'État, la FLC, arrive à débusquer ces détourneurs de l'État, on va quand même voir encore que les choses sont en train de se concrétiser. Mais si ce n'est pas cela, si on oppose comme on l'a opposé au regretté contrôleur, le regretté professeur Ibriga, pour dire que c'est le secret défense, on ne peut pas aller fouiller là-bas, alors qu'on sait que le secret défense, ce n'est pas tout qui a été bien géré, ça ne peut pas aller.
Justement, parlant de l'ancien contrôleur d'État, aujourd'hui aura lieu son inhumation à Tenkodogo. Et pour cela, vous avez décidé de repousser la date de la commémoration du 3 janvier 66 au samedi 7 janvier. Qu'est-ce qui est prévu en guise d'hommage?
Oui, je tiens à signaler que initialement, c'était lui que nous avons approché pour nous animer la conférence aujourd'hui. Et en son temps, comme s'il le savait, il nous a dit non, bon, lui, il n'est pas disponible, il doit aller pour son contrôle médical, mais il va nous recommander quelqu'un d'autre. Et voilà que le destin l'a voulu autrement, il a été arraché à notre affection. Donc, vraiment, en hommage déjà à cette illustre personne-là, nous avons décidé de reporter donc la commémoration du 3 janvier 2023 au 7 janvier. Et ce serait l'occasion pour nous de lui rendre encore un hommage mérité, parce que c'est quelqu'un qui a contribué à renforcer le mouvement syndical dans ses actions.
Marcel Zanté, merci.
Merci bien à vous.